cours d'éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 12 octobre 1994.
Vous dites qu'aimer l'autre pour lui-même est le bien absolu. Mais existe-t-il un amour humain purement désintéressé? Comprenez? L'amour est par lui-même désintéressé. Alors, posez la question, existe-t-il un amour? C'est toujours la même chose, voyez, ça c'est l'amour que nous expérimentons est un amour en croissance. C'est quand même un amour. C'est toujours la distinction entre le devenir et l'être. Alors celui qui dit il y a le devenir, donc il n'y a pas l'être. Mais c'est la grosse objection tout le temps, ça c'est évident. La distinction n'est pas la séparation. L'amour existe dès qu'on a l'expérience de l'amour. Si on n'a pas l'expérience de l'amour, on reste dans le devenir, qui n'est pas l'amour. Alors ça, c'est toujours la même distinction, être et devenir. Alors évidemment, Heidegger est là qui dit l'être existe indépendamment du devenir. Il n'existe alors que d'une manière idéale et c'est plus l'amour. L'amour humain est un amour humain. Il y a que tu veux qu'il y ait des intéressés, c'est évident. Mais ne t'identifiez pas désintéressement et amour. N'identifiez pas amour et modalité parfaite de l'amour. N'identifiez pas amour et amour en soi. L'amour existe pour nous d'une manière humaine. Et donc toujours d'une manière imparfaite. Mais s'il existe, êtes-vous intelligent? Alors, vous ne pouvez être intelligent que si l'intelligence seule existe en soi. Non. L'intelligence existe au niveau humain, vous voyez. Ça, c'est toujours la connaissance analogique. C'est difficile, hein, c'est très difficile d'acquérir la connaissance analogique. Parce qu'on est tous cartésiens. À la fois arriver petit à petit à se purifier de Descartes, ce qui est très difficile. Parce que Descartes aboutit au positivisme. Mais c'est bien, posez vos questions, hein. Je réponds hardiment parce qu'il le faut le faire. Car comme vous dites, on aime un bien qui nous achève, qui nous perfectionne, c'est sûr. Donc ultimement, notre fin c'est nous. Mais non, c'est pas nous, c'est le bien qu'on aime. C'est toujours le problème de la finalité. Quand on aime un bien, on s'aime, mais c'est évident qu'on s'aime. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Oui, toujours distinguer ce qui spécifie de l'exercice de la spécification. La phénoménologie ne distingue pas les deux. Alors là, vous voyez, c'est une objection psychologique, ça. La manière d'exister et la spécification. C'est la confusion de la phénoménologie d'aujourd'hui. Confusion de Hegel, confusion de Descartes, confusion du néoplatonisme. Il faut arriver petit à petit à arriver à distinguer ça. Je sais que c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a si peu de philosophie réaliste. Parce que la philosophie réaliste, c'est justement cette distinction-là. Distinguer l'être et le devenir. Arriver petit à petit à distinguer la manière dont on connaît et ce qu'on connaît. Quand on aime un bien, on aime ce bien pour lui-même. Qu'on s'aime en aimant, mais c'est évident, aimer, c'est ce qui me perfectionne le plus. Mais c'est pas parce que aimer me perfectionne le plus que l'amour n'est pas l'amour. Je vois pas, vous mettez une dialectique entre l'amour extatique et le sujet qui aime. Mais il n'y a pas d'opposition dialectique, puisque s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est toujours un sujet, c'est une c'est ce bien. Si c'est pas ce bien, il peut pas m'achever. Il faut regarder quelque chose qui est au-dessus de moi pour qu'il m'achève. Autrement, il m'achève pas. Et donc, c'est bien le bien qu'on regarde. Et c'est bien ce bien qui suscite en moi l'amour. Donc, ultimement, notre fin, c'est nous. Attention, c'est pas nous. C'est nous qui sommes finalisés. Si on est finalisé, ceux qui nous finalisent restent ceux qui nous finalisent, même s'ils nous finalisent. Vous voyez ? Et c'est pas nous qui sommes finalisés qui sommes la fin. Autrement fait, le serpent qui mord sa queue. Distinguons la causalité efficiente et la causalité finale. Je sais que c'est pas commode et que depuis Don Scott, on tombe dans le panneau et on ne voit plus que la causalité efficiente. La causalité finale n'existe que grâce à la causalité efficiente, mais la causalité efficiente n'est pas la causalité finale. Donc c'est très bien de poser des questions pour arriver à discerner ça. Pour distinguer sans séparer, je ne peux pas séparer la finalité de la cause efficiente, mais je la distingue. Il y en a une qui vient de moi, causalité efficiente, et la fin qui vient de la fin et du bien. Et c'est là où la psychologie, vous voyez, la psychologie nous encombre. Ça. Tant qu'on reste au niveau psychologique, on reste dans ce point de vue-là. C'est pour ça que la psychologie a toujours horreur de la philosophie, parce qu'on montre que, mais oui, on fait des confusions. Alors on n'a pas envie de faire des confusions. Ce qui existe, c'est moi. Mais non. Vous êtes capable d'aimer un autre. Et quand vous aimez l'autre, c'est l'autre qui existe pour vous. Dans toute expérience d'amour, on fait cette expérience. C'est pour ça que quand on aime vraiment, on a horreur des psychologues. Parce qu'on voit qu'ils ramènent tout au sujet. Il y a l'exercice. Et donc, ils tuent l'amour. Vous savez, j'ai déjà dit, je vous ai raconté cette histoire. C'était en Suisse, une conférence où j'ai dit comme ça, parce que je le dis de temps en temps, la psychologie ne sait pas ce que c'est que l'amour. Alors, il y avait un étudiant qui était de Genève, qui était plongé dans la psychologie de Piaget. Alors on m'a dit à la fin de la conférence, il est furieux de ce que vous avez dit. Et qu'ils viennent, et puis entre deux, on me dit qu'il est, que sa fiancée est là. Je dis, mais alors on est sauvé. Alors je lui ai demandé brutalement, est-ce que votre psychologie de Piaget vous a servi à quelque chose pour aimer votre fiancée? Alors il m'a regardé, non. Ben, donc c'est bien, vous êtes d'accord? Puis je me suis retourné après vers la fiancée et je dis heureusement pour vous. Parce que si vous m'avez dit que votre psychologie vous avait servi à aimer, je dis mademoiselle, attention, il ne vous aime pas. Oui, il faut arriver à des choses très simples de réaliser qu'est-ce que c'est qu'aimer. Qu'est-ce que c'est que penser? Alors on voit là que la psychologie ne dit rien de ces choses-là, qu'elle est tout le temps philosophe le sait. Alors la psychologie s'intéresse aux déficiences. Il faut arriver petit à petit à saisir ça. Je sais que c'est pas commun dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, posez vos questions. Parce que si vous ne posez pas vos questions, vous resterez et vous direz, oh, la philosophie est au-dessus. Mais non, la philosophie a un réalisme que la psychologie n'a pas. Et c'est ça que les psychologues n'acceptent pas. Parce que pour eux, la plupart du temps, ils sont restés dans la scolastique ou dans le platonisme. Alors je suis d'accord, la scolastique et Platon ne voient pas le réalisme. Mais une philosophie qui commence par le jugement d'existence est toujours présent. On ne le quitte pas. Même quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est en relation avec le jugement d'existence. Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la ratio N10? C'est en relation avec le jugement d'existence. Le jugement d'existence est toujours présent en philosophie. Donc on saisit la réalité. L'homme, c'est Pierre. Je saisis en philosophie. C'est pas l'homme en soi. Alors, est-ce que l'amour utilitaire est-ce de l'amour utilitaire, si j'ai de la joie à la joie de mon ami. La joie est une propriété de l'amour. Tandis que utilitaire est une modalité de l'amour. Il y a l'amour utilitaire. J'aime le fort en thème parce que je suis fort en version. Alors, il y a un manque chez moi. Alors, j'aime ce qui complète mon manque. Ça, amour utilitaire. J'aime quelqu'un parce qu'il a une grosse fortune. Et je sais que si je l'aime, je pourrais plonger ma main dans sa fortune. Et il s'en apercevra pas parce qu'il m'aime. On voit ça tous les jours, n'est-ce pas? Encore hier. Aider ces gens pour leur faire comprendre ce que c'est que l'amour utilitaire qui n'est pas l'amour. Que l'amour, celui qui recherche uniquement la jouissance, n'aime pas. Mais ce qui n'empêche pas que l'amour donne les plus grandes joies. Parce que la joie est une propriété de l'amour. Dès qu'il y a l'amour, il y a la joie. Et l'amour peut être complètement désintéressé. Plus il est désintéressé, plus il est joyeux. Mais désintéressé au sens, pas désintéressé de façon absolue. Mais non, objectivement, c'est l'autre que j'aime, c'est pas moi. Aristote disait, j'aime beaucoup Platon, mais j'aime encore plus la vérité, oui. Ça, c'est un aveu d'Aristote, qui est beau. Hein. N'a-t-il pas raison de regarder la recherche de la vérité comme un plus grand bien absolu que l'amour d'amitié? Quelle est la place de la recherche de la vérité dans mon activité morale? Attention. Pourquoi dit-il qu'il aime plus la vérité que Platon? C'est que Platon est dans l'erreur. Et donc l'amour qu'il a pour Platon, s'il est vrai, dépasse Platon et la doctrine de Platon. C'est ça qu'il veut dire. Parce qu'autrement, alors, vous ne considérez plus que l'amour d'amitié un certain absolu. Et vous direz, au nom de la vérité, je détruis tout amour d'amitié parce que tous mes amis sont dans l'erreur. Attention. Alors l'amour d'amitié n'existe plus. Mais comme quoi les sophistes sont faciles à faire. Et on a tous eu cette expérience-là, il y a cette à ce moment-là, on a bien senti qu'il y avait quelque chose erroné. Vous voyez, on vendrait son ami pour être dans la vérité. J'ai vu ça une fois. Quelqu'un qui, au nom de la vérité, a trahi son ami. Ça, non. On doit au-delà de ce qu'il fait. Et donc, il y a dans l'amour d'amitié quelque chose qui est au-dessus. Et quand Aristote dit ça, comprenons bien. J'aime Platon, mais oui, il aime Platon. Et il continue d'aimer Platon tout en aimant la vérité, heureusement. Et il pourrait dire, j'aime encore plus Platon parce que j'aime la vérité. Ah, il pourrait dire ça. L'amour de la vérité ne supprime pas l'amour d'amitié, mais purifie l'amour d'amitié. Et fait que dans l'ami, j'aime cette personne et non pas les erreurs qu'il est. Et non pas les erreurs qui sur lesquelles il demeure. Vous voyez, je dépasse cela. Alors, dernière question. Vous avez dit que je ne peux être ma propre fin. Parce que, oui, c'est à propos de l'amour d'amitié, parce que je n'atteins qu'à travers mon vécu. Cette impossibilité d'être sa fin vient-elle donc du mode intentionnel de ma connaissance? Elle vient de mes limites. C'est évident. Et que mes limites sont liées au conditionnement de mon être et de ma connaissance et de mon amour. Vous comprenez que moi-même, je ne peux pas me finaliser. Pourquoi ? Parce que ce qui me finalise est un bien plus grand que moi. Donc il ne me finalise pas. Est-ce que mon chien peut me finaliser ? Il est autre que moi. Il est inférieur à moi, donc il ne me finalise pas. Est-ce que mon œuvre d'art peut me finaliser ? Mais non, parce que mon œuvre d'art est autre que moi. Mais elle vient de moi. Tandis que l'ami, la personne de l'ami, a quelque chose qui me dépasse. Il existe et n'existe pas par moi. S'il existait par moi, si mon ami était mon œuvre, vous voyez, mon ami, il est merveilleux, il est entièrement dépendant de moi. Et tout ce qu'il a de bon vient de moi. À ce moment-là, il ne peut plus être ma fin. Dans toute personne humaine, il y a quelque chose d'absolu qui ne vient pas de moi. Et ce quelque chose d'absolu qui ne vient pas de moi, c'est ce bien qui va dire. Avec tout le reste, hein. Mais il y a ce quelque chose qui est capable de me finaliser. Alors cette impossibilité d'être sa fin vient-elle donc du mode intentionnel de la connaissance ? Une connaissance métaphysique de mon je suis ne me permettrait-elle pas, par son réalisme, de me finaliser par mon amour de mon je suis? Non, c'est toujours la même chose. Mon je suis est limité. Mon je suis reste dans mon immanence. Et n'est pas quelque chose qui vient me dépasser. Il y a dans l'ami quelque chose qui est autre que moi et qui est plus que moi. Puisqu'il est autre que moi et il est capable de me perfectionner. Alors je ne l'analyse pas quand j'aime quelqu'un. On dit toujours quand on aime quelqu'un, c'est vous projeter sur l'autre ce que vous êtes pas du tout. Aimer vraiment l'autre, c'est aimer sa personne. Et sa personne a quelque chose qui est au-delà de la mienne, qui n'est pas la mienne, qui est distincte de la mienne et qui est au-delà. Et qui vient me donner quelque chose d'un air nouveau. Je respire. Tandis que quand je me regarde moi-même, j'étouffe. Quand je regarde l'autre, je me dépasse. C'est pour ça que l'amour est extatique. Parce qu'il aime l'autre. Comment voulez-vous assez gênant. Pourquoi vous êtes gêné quand quelqu'un dit ça? Moi, j'espère que vous êtes gêné. Pourquoi êtes-vous gêné quand quelqu'un vous dit ça froidement? La seule personne que j'aime, mon père, c'est moi. Et ça a toujours été comme ça. J'ai rencontré ça dans ma vie plus d'une fois. À ce moment-là, j'essaie d'analyser et de voir pourquoi il y a ça. Et je vois très bien qu'il n'a pas aimé, qu'il est content de se retrouver lui-même et de ne pas avoir à aimer. C'est toujours désastreux d'aimer, puisque c'est se quitter. Et la personne qu'on connaît le mieux, c'est soi. C'est gênant de se quitter et d'aimer quelqu'un d'autre. Tu veux savoir, puisqu'il est loin, je ne vois pas. Mais bien l'autre, c'est dans ce sens-là, vous voyez, que l'amour du prochain rectifie énormément l'amour. Parce qu'il y a ce réalisme que je touche. Évidemment, quand on aime vraiment Dieu, il y a le réalisme encore bien plus grand. Parce que Dieu est plus réel que n'importe qui. Et Dieu est le seul qui vraiment est source de tout mon être. Et donc à ce moment-là, celui qui me perfectionne parfaitement, les autres ne me perfectionnent que partiellement, parce qu'ils ont eux-mêmes des limites, mais ils sont capables quand même de me perfectionner. Vous pouvez dans n'importe quel être humain trouver quelque chose qui vous permet de vous agrandir. C'est ça qui est étonnant. Dans n'importe quel être humain, il y a quelque chose qui vous agrandit. Et c'est ça que vous devez découvrir pour aimer vraiment. L'amour est extatique. Tandis que je n'ai pas d'extase en m'aimant. Avez-vous une extase en vous aimant? Ce serait très gênant. Parce que vous seriez comme la grenouille qui me faisait aussi grosse que le bœuf. Il aurait l'éclate. Ça, vous voyez, l'amour de soi, quand on veut qu'il rejoigne l'amour de l'autre, nous fait éclater. C'est très juste, ça. savez, on vit un monde dialectique constamment. Alors il faut dépister la dialectique pour voir le réalisme. Parce que tant que vous êtes dans la dialectique, vous êtes dans l'imaginaire. Il faut dépister ça. Et puis, regardez le point de vue réel. Essayez de saisir ce qu'il y a de réel. Alors, je vous disais la dernière fois, n'est-ce pas, l'expérience de l'amour d'amitié est une expérience que nous pouvons tous faire. Alors, c'est là où la grosse objection, j'ai encore entendu l'autre jour, la grosse objection, mais si la philosophie éthique commence par l'amour d'amitié, et que l'amour d'amitié est parfait et très rare, c'est vrai. Un véritable amour d'amitié est très rare. Il faut du temps. Il faut dire vraiment, c'est mon ami. C'est très rare. Alors, au fond, la philosophie éthique n'existe que pour quelques individus. Alors, à cela, vous répondez que le philosophe cherche ce qu'est l'homme. Et dans tout homme, il y a des limites. Mais il y a l'homme. Même dans un être monstrueux, il y a l'homme. Et le philosophe essaie de comprendre ce qu'est l'homme en prenant les expériences les plus parfaites de l'homme. Pour connaître ce que c'est que l'art, vous n'allez pas regarder les petits dessins d'enfants. Vous pouvez les regarder après, mais pas en premier lieu. Vous aimez mieux regarder les chefs-d'œuvre. C'est à partir de là que vous comprenez ce que c'est que l'art. Donc vous faites ça au point de vue artistique et vous ne le permettez pas de le faire au point de vue moral. C'est exactement la même chose. Pour connaître ce que c'est que la mort, ce que c'est que l'acte moral humain, je regarde l'acte le plus parfait qui existe. Et je sens en moi que cet acte le plus parfait, même si en moi il n'existe pas parfaitement, il existe quand même à l'état embryonnaire. Et l'embryon est un homme, parce qu'il doit devenir un homme. Il est déjà un homme très imparfait, mais il est un homme. Parce qu'il est tout entier ordonné à ça. Donc un acte très imparfait est ordonné à l'amour d'amitié. C'est ça qui est merveilleux. Et au fond, le véritable éducateur, c'est celui qui sait découvrir, même dans l'imperfection, l'ordre vers le parfait. Et le philosophe, c'est celui qui sait choisir ses bonnes expériences dans son laboratoire humain. Et il va, pour essayer de comprendre ce que c'est l'acte moral, regardez l'acte moral chez un homme qui est parfaitement moral. Quel est le sommet de l'activité morale? C'est l'amour d'amitié. Si c'est l'amour d'amitié qui est le sommet, c'est cet acte-là que je regarde en premier lieu pour connaître ce que c'est que l'acte moral. J'ai parfaitement le droit de faire ça. Vous savez, le philosophe a une liberté totale. Autrement, il n'est pas philosophe. Il a le droit de choisir. Je ne refuse rien a priori. Mais refuser rien a priori n'est pas enlever mon intelligence. Au contraire, c'est ouvrir mon intelligence à tout homme. Quand j'aime tous les hommes, cela ne veut pas dire que j'aime surtout celui qui est l'homme devient incapable d'aimer l'homme, il devient un monstre. Il n'a plus qu'un œil. Il s'est fait un cyclope, un monstre. Et c'est vrai. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Encore les événements qui sont arrivés à Paris l'autre jour.
La nature humaine.
crois ça très important. Alors, ça se découpe progressivement, hein, mais il faut que vous le découvriez, ça. Tant que vous ne l'aurez pas découvert, tout ce que je dirai en éthique vous semblera conventionnel. Et donc pas philosophique. Si vous découvrez au contraire que l'amour d'amitié est bien ce qui finalise, ce qui permet à l'homme de poser un acte humain parfait, je te choisis comme ami. Tu es mon ami. C'est un acte humain parfait, ça. Mais les stoïciens, il y a des choses qui sont fausses, mais il y a quand même quelque chose de grand. Les stoïciens considéraient que c'était dans le choix de l'ami que la personne humaine se dévoile le mieux. Et c'est juste. Quand un garçon choisit sa fiancée, il manifeste sa personne à travers ce choix. Quand un garçon ou une fille choisit la vie religieuse pour être sa vocation, il se dévoile. Tant qu'un homme n'a pas choisi, il n'est pas homme. Sa vie morale est bancale. Il cherche. Il cherche. C'est en choisissant que se noue sa personne. Parce que c'est en choisissant que la morale prend toute sa signification. Or, le choix d'un ami, c'est le choix le plus parfait qui soit. Humainement parlant, c'est le choix le plus parfait qui soit. Parce que j'ai l'expérience de la liberté de ce choix et qui porte non plus sur un moyen, mais sur une personne qui est mon bien. En tant qu'elle est mon amie. Alors là, j'ai quelque chose de très fort et qui me permet de comprendre que l'acte moral, là, s'épanouit dans toute sa force. Or, je choisis librement. Quand vous dites à quelqu'un, je te choisis comme ami parce que je suis forcé de te choisir comme ami, l'autre dira, tiens, tant que tu ne m'auras pas choisi librement, je ne croirai pas en ton amour. C'est très vrai. Je te choisis librement parce que tu as beaucoup de fortune. Donc tu aimes mieux ma fortune que moi. Donc ce n'est pas un amour d'amitié, ce n'est pas un acte libre. C'est parce que tu as besoin d'argent que tu me choisis. Et ainsi de suite, voyez. Le choix noue la personne et manifeste la personne de façon très étonnante. Le choix d'un ami, c'est quelque chose de très grand. C'est pour ça qu'au point de vue éducatif, aujourd'hui, il faut essayer de faire que très vite, les jeunes choisissent un ami. Parce que ça leur permettra de comprendre leur responsabilité et de comprendre qu'ils sont capables d'orienter leur vie, ce qui est capital. Tant qu'on ne peut pas faire ça, on reste dans quelque chose de très imparfait. Donc, toute la morale fondamentalement humaine se fonde autour de l'amour d'amitié. Et c'est l'analyse de la